La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Cet appel sur l'actualité, votre émission chaque matin sur l'antenne de RFI pour savoir et comprendre le monde, votre émission de débat également. Vous avez la parole chaque matin et ainsi dans une demi-heure, ce sera la libre antenne. Chaque vendredi, nous abordons les sujets de votre choix, qu'il s'agisse de poursuivre les débats de la semaine ou d'en ouvrir de nouveaux. Si vous voulez revenir par exemple sur le décès de DJ Arafat, sur le possible retour de François Bozizé et des exilés en Centrafrique, c'est le bon moment. Ou sur d'autres sujets, peut-être, selon vous, pas assez présents à l'antenne de RFI. Nous vous attendons par téléphone 33 9 693 693 70. Vos messages sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Et vos messages également sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme chaque jour, la rédaction se mobilise pour répondre aux questions que vous nous posez sur l'actualité. Direction Douala pour commencer. Bonjour Claude.
Bonjour François Mazet.
Claude, bonjour, vous avez des questions. Vous avez des questions sur l'affaire Benny Steinmetz, allez-y.
Tout à fait. Le milliardaire Benny Steinmetz sera jugé en Suisse pour corruption et usage de faux. Il a accusé d'avoir versé plusieurs millions d'euros de pots de vin en échange de l'octroi d'une concession minière dans le sud de la Guinée. Alors, je voulais savoir, pourquoi c'est le tribunal de Genève qui juge l'affaire ?
Pour vous répondre, Coralie Pierret nous rejoint. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Alors le procureur suisse accuse Benny Steinmetz d'avoir versé des pots de vin à des agents publics guinéens et c'est donc bien en Suisse finalement que le milliardaire va être renvoyé devant les tribunaux.
Oui, même si à ce stade la date du procès n'a pas encore été annoncée, mais la Suisse ouvrira bel et bien son premier procès pour corruption internationale. Après 6 ans d'enquête, une intense coopération entre diverses autorités étrangères, Benny Steinmetz est finalement accusé donc de corruption d'agents publics étrangers. Il est soupçonné aussi d'avoir fabriqué des fausses factures et des faux contrats. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.
Et le franco-israélien, Coralie, n'est pas le seul à être renvoyé en jugement.
Non, les infractions de corruption, de faux, sont aussi retenues contre Sandra Merloni-Oremans, qui est la directrice de BSGR à Genève, citée d'ailleurs dans la fuite des documents confidentiels, les Panama Papers. Citée également Frédéric Silens, un collaborateur externe de la société. Tous les trois sont accusés d'avoir obtenu le permis du bloc 1 et 2 du gisement du Simandou grâce à la corruption. 10 millions de dollars auraient été versés à des tiers guinéens.
Mais d'où la question de Claude. Coralie, si l'affaire concerne la Guinée et un franco-israélien, pourquoi est-ce la justice suisse qui s'est emparée de l'affaire ?
Alors, dans un premier temps, deux enquêtes dans ce même dossier avaient été lancées aux États-Unis d'abord par le FBI, puis en Guinée. C'est dans le cadre de cette procédure à Conakry qu'avait été lancée une commission rogatoire vers Genève, car une partie des activités de BSGR y était basée. Et c'est cette commission rogatoire, explique l'avocat de Benny Steinmetz, Marc Bonan, qui a permis au procureur de Genève d'ouvrir une enquête, d'autant que Benny Steinmetz était à l'époque domicilié dans cette ville suisse et qu'une partie des pots de vin ont transité par des comptes en Suisse.
Claude, vous avez une autre question pour Coralie ?
Justement, Coralie, vous l'avez dit tout à l'heure, et d'où ma deuxième question. La femme du président de l'époque, Lassana Conté, ainsi que l'un des collaborateurs du groupe BSGR, Guinée, Frédéric Silens, ont été cités dans l'affaire. Que leur reproche-t-on ? Que risque-t-il en plus ?
Alors Coralie, quel rôle ont joué Mamadi Touré et Frédéric Silens ?
Alors souvenez-vous, j'ai parlé de Frédéric Silens un peu plus tôt dans mon intervention. C'est un collaborateur externe de BSGR. Il est accusé aux côtés de Benny Steinmetz par le procureur suisse de corruption. Et ce même Frédéric Silens avait été condamné par la justice américaine dans ce même dossier de pot de vin. Il est arrêté en 2013 en Floride. Le Français plaide aussitôt coupable et avoue avoir proposé 20 000 euros à Mamadi Touré, la veuve de l'ancien l'ancien président guinéen Lansana Conté. En échange, elle devait détruire des documents compromettants autour de l'attribution du permis minier du Simandou. Elle devait aussi fuir sa résidence aux États-Unis pour échapper à l'enquête du FBI. En 2014, Frédéric Cillens est condamné à 2 ans de prison ferme et il risque à nouveau entre 2 et 10 ans d'emprisonnement, dont l'affaire qui sera jugée prochainement en Suisse.
Donc Mamadi Touré est également citée. Qui est-elle exactement, Coralie?
Oui, elle aurait joué au même titre que Frédéric Cillens un rôle d'intermédiaire. Mamadi Touré, on l'a dit, est la dernière épouse du président Lansana Conté. BSGR serait passée par elle pour qu'elle influence son mari pour qu'il cède à l'entreprise de Benny Steinmetz les titres de propriété du bloc 1 et 2 du Simandou. Cette concession était jusque-là la propriété du géant anglo-australien Rio Tinto. Mais finalement, en 2008, après un décret présidentiel que Lansana Conté signe quelques mois avant sa mort, BSGR récupère le bloc 1 et 2. En 2013, résidente aux États-Unis, Mamadi Touré fait l'objet d'une enquête des autorités américaines dont on a déjà parlé. Et c'est en échange de l'immunité qu'elle permet l'arrestation de Frédéric Cillens, le consultant de BSGR.
Merci Coralie Pierret pour toutes ces explications. Et merci à vous Claude qui est en ligne de Douala. Si vous voulez en savoir plus et notamment sur l'avancement, l'état actuel du projet minier à Simandou, je vous renvoie vers notre site RFI.fr et vers le travail de Coralie. Deuxième question ce matin, nous partons à Bujumbura. Bonjour Avi.
Bonjour.
Vos questions nous mènent en Amérique du Sud ce matin, nous vous écoutons.
Oui, Alberto Fernandez a remporté la primaire en Argentine, accompagné de sa collègue Cristina Kirchner. Il est le grand favori de l'élection d'octobre. Pourquoi l'Argentine organise ce type d'élection 3 mois avant l'élection présidentielle?
On va le demander à Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour.
Du service international de RFI. Stéphanie, c'est vrai que ce système de primaire à l'Argentine est peu commun. Alors pourquoi organiser un scrutin de ce type 3 mois avant une présidentielle?
Alors pour comprendre ça, il faut peut-être revenir en fait à la création de ce système de primaire. En fait, ça fait pas si longtemps que ça existe. Ce système des primaires a été proposé à la fin de l'année 2009 par Cristina Kirchner. À l'époque, elle en est à son premier mandat à la tête de l'État. Officiellement, selon elle, c'est primaires doivent apporter une amélioration au fonctionnement de la démocratie en Argentine. Mais ce n'est certainement pas la seule motivation de la présidente à ce moment-là. L'été de cette même année, 2009, donc, son parti a essuyé un lourd revers lors des élections législatives. La faute à une dissidence à l'intérieur de cette grande famille politique à laquelle appartiennent aussi les Kirchner, c'est-à-dire le péronisme. Selon des voix critiques, les Kirchner auraient donc introduit les primaire pour s'assurer qu'à l'avenir, les querelles internes du mouvement ne se soldent plus par une défaite électorale.
Alors ce système, Stéphanie, comment il fonctionne?
Eh bien, c'est assez curieux, François. Selon la loi électorale, les primaires en Argentine remplissent 2 fonctions. Premièrement, elles doivent déterminer quels partis pourront se présenter aux élections. Seuls sont admis ceux qui dépassent pendant les primaires 1,5% des voix exprimées. Et deuxièmement, elles peuvent servir à sélectionner parmi plusieurs prétendants au sein d'un même parti, le candidat ou la candidate qui participera aux élections. Ça c'est, si vous voulez, le point un peu plus classique. Dans d'autres pays, les primaires servent habituellement à choisir parmi plusieurs prétendants un candidat qui représentera par la suite le parti lors du scrutin.
Oui, comme on le voit aux États-Unis, sauf qu'en Argentine, Stéphanie, cette fonction, celle qui permet la désignation du candidat, elle n'est pas toujours utilisée.
Exactement. En fait, elle est utilisée pour les primaires en ce qui concerne les élections législatives ou régionales, mais elle ne l'est pas, et ça c'est assez curieux, pour ce qui est de l'élection présidentielle. Pour les primaires de l'élection présidentielle, chaque parti ne présente qu'un seul ticket. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un candidat au poste de président et un candidat à celui du vice-président. Ces candidats ont donc été désignés par leurs partis respectifs avant la tenue de la primaire. Selon la loi d'ailleurs, votée en 2009, donc les partis ont le droit d'agir ainsi.
Donc forcément, on se demande à quoi servent ces primaires.
Ouais, automatiquement, cette primaire se transforme du coup en sondage grandeur nature, en une sorte de répétition générale, parce que, puisque les primaires sont obligatoires en Argentine, les électeurs vont donc voter pour le ticket qu'ils éliront très probablement aussi lors de l'élection présidentielle.
Ah oui, vous avez une autre question pour Stéphanie.
Oui, historiquement, le vainqueur du primaire remporte-t-il l'élection?
Alors presque, en fait, ah oui, parce qu'en 2011, Christina Kirchner a remporté les primaires avec plus de 50% des voix et elle a été réélue, comme on le sait, à la même année, dès le premier tour de la présidentielle. Ensuite, en 2015, c'est le candidat péroniste Daniel Scioli qui remporte les primaires. Au premier tour de l'élection présidentielle qui s'ensuit, il se trouve en effet en tête, mais il doit affronter au second tour le libéral Mauricio Macri et c'est Macri qui gagne finalement en raison d'un report de vote des électeurs des autres candidats. Alors, cette année, aujourd'hui, hein, tout semble indiquer que le candidat péroniste Alberto Fernández a des chances de remporter la présidentielle du mois d'octobre dès le premier tour parce que il est sorti des primaires de la semaine dernière avec 47% des voix, 15 points devant Macri, donc ça fait beaucoup d'avance. Et parce qu'aussi, en Argentine, vous savez peut-être, il suffit de 45% des voix pour être élu dès le premier tour à la présidentielle.
Alors, le résultat de cette primaire a eu des conséquences. Et ah oui, vous aviez une question sur une de ces conséquences.
Ouais, suite à l'annonce de la victoire de Fernandez, comment expliquer l'effondrement du peso?
Alors, l'effondrement du peso, il s'explique très certainement par plusieurs facteurs et malheureusement, on n'a pas le temps de tout évoquer tous ces facteurs ici, mais je pense que le plus important est sans doute le mauvais souvenir qu'a laissé l'ex-présidente Christina Kirchner aux investisseurs internationaux parce que sa présidence a été marquée par un strict contrôle d'échange et de fortes restrictions sur l'achat d'importation. Et ça, évidemment, les investisseurs internationaux, ils n'aiment pas trop ça. Alberto Fernandez lui-même est resté pour l'instant plutôt vague sur son programme économique. On estime qui pourrait peut-être être un peu plus modéré que l'était Christina Kirchner, mais Christina Kirchner reste quand même sa vice-présidente, si jamais il est élu, hein, ce ticket est élu. Fernandez a assuré que l'Argentine continuerait à rembourser les 57 milliards de dollars empruntés au Fonds monétaire international, même s'il compte renégocier les termes de la dette. Donc on ne sait pas encore trop vers quoi on se dirige exactement, mais les marchés en tout cas ne sont pas rassurés.
On suivra ça avec vous. Merci Stéphanie Schuller et merci à Aoui, vous restez fidèle à RFI, à Bujumbura. Direction Bamako maintenant. Bonjour Blaise.
Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous avez lu, Blaise, ou entendu sur RFI que le Japon souhaitait déverser dans le Pacifique les eaux radioactives de Fukushima, soit plus d'un milliard de litres d'eau, et vous avez des questions à ce sujet.
Oui, effectivement François, je voudrais savoir pourquoi cette décision, et au vu de la dangerosité d'une telle opération, n'existe-t-il pas d'autres options?
On va le demander à Frédérico Jardias, correspondant de RFI à Séoul. Bonjour.
Bonjour, bonjour Blaise.
La Corée du Sud, forcément très mécontente, on va y revenir. Mais d'abord, revenons sur cette décision. Qu'est-ce qui pousse les autorités japonaises à ce rejet d'eau contrôlée dans l'océan?
Alors, en fait, il faut d'abord rappeler l'origine du problème. L'eau radioactive continue de s'accumuler jour après jour à Fukushima. L'eau qui sert à refroidir les réacteurs détruits et puis l'eau contaminée des nappes phréatiques sous la centrale sont conservées dans des réservoirs. 1400 tonnes en moyenne s'y ajoutent chaque semaine. Près de 1000 réservoirs ont déjà été construits et l'opérateur nucléaire TEPCO a déclaré qu'il allait manquer d'espace sur le site d'ici l'été 2022. Un comité gouvernemental japonais a proposé 5 options pour se débarrasser de cette eau contaminée, comme par exemple une injection profondément sous terre ou une évaporation, solidification puis enterrement souterrain des déchets. Mais l'option la moins chère et la plus rapide, celle que les experts considèrent comme, je les cite, la plus réaliste, c'est un rejet contrôlé dans l'océan. Mais des ONG de défense de l'environnement accusent le gouvernement japonais de ne pas considérer d'autres options comme le développement de nouvelles technologies de décontamination, ce qui bien sûr coûterait beaucoup plus cher. Il faut savoir que l'opérateur TEPCO assurait posséder des technologies censées enlever les radionucléides de l'eau, mais en septembre dernier, après avoir caché la vérité pendant des années, TEPCO a reconnu que ces technologies fonctionnaient mal et qu'elles ne permettaient pas de se débarrasser d'éléments radioactifs et cancérigènes comme le strontium-90. 80% de l'eau des réservoirs pourtant déjà traitée avec ces techniques dépasse les seuils de sécurité fixés par le gouvernement. On comprend donc l'inquiétude des résidents de Fukushima, des pêcheurs de la région et puis bien sûr des pays voisins comme ici en Corée. L'ONG Greenpeace tire donc la sonnette d'alarme et demande au Japon de considérer une autre alternative, construire encore davantage de réservoirs, conserver cette eau pendant des décennies et développer d'ici là des techniques efficaces pour la décontaminer. Une alternative qui d'ailleurs n'est elle-même pas exempte de risques. Bref, pour répondre à votre question, Blaise, il n'y a pas d'option idéale, ce qui rappelle l'immense difficulté à gérer un accident nucléaire grave.
Et ce problème dépasse le cadre du Japon, Blaise. Cela vous fait poser une question pour Frédéric.
Oui, tout à fait. Et ce régime ne va-t-il pas provoquer des tensions avec les pays voisins, notamment la Corée avec laquelle le Japon partage cette mer?
Oui, oui, bien sûr. La Corée du Sud s'oppose farouchement à ce qu'un milliard de litres d'eau radioactive soit déversé à proximité de ses côtes, une contamination qui pourrait menacer son industrie de la pêche. La Corée, c'est une péninsule entourée de mer avec justement une longue tradition de pêche. Cette semaine, les médias sud-coréens ont fait part de leurs inquiétudes, des inquiétudes aggravées par le manque de transparence de TEPCO et du gouvernement japonais, parce que ça fait en effet un an que Séoul soulève cette question auprès de Tokyo et demande d'ouvrir un dialogue bilatéral, des discussions sur le dossier. Sans succès, le Japon se contente de répondre que sa décision n'est pas encore prise et qu'il fera une annonce auprès de la communauté internationale quand elle le sera. Une réponse qui, vous vous en doutez, ne satisfait pas vraiment les Coréens. Et comme la Corée du Sud et le Japon ont entamé depuis cet été une guerre commerciale sur fond de querelles historiques liées au passé colonial japonais, la question des eaux radioactives de Fukushima jette de l'huile sur le feu. C'est d'ailleurs une carte de plus dont va se servir Séoul pour faire pression sur Tokyo dans le cadre de ce conflit économique et historique avec Tokyo.
Merci Frédéric Ojardias, correspondant de RFI à Séoul, d'avoir pris le temps de répondre à Blaise qui est à Bamako. Blaise, êtes-vous satisfait?
Oui, tout à fait.
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à Bamako, où il est 8h27, comme à Abidjan, où se trouve Armand. Bonjour.
Oui, bonjour Blaise.
Alors moi, c'est François. Bonjour. Oui, Blaise était à Bamako juste avant. François. Mais vous pouvez le saluer, il n'y a pas de souci. Armand,
oui,
vous...
Bonjour Blaise, bonjour François.
Armand, vous avez une question sur la gouvernance du football ivoirien, et plus particulièrement sur l'avenir d'une de vos anciennes idoles.
Oui, oui, effectivement, François, il y a M. Didier Drogba qui a déclaré vouloir se présenter à la présidence de la Fédération ivoirienne de football si toutes les conditions étaient réunies. Alors, connaissant les conditions évoquées par M. Didier Drogba, et quel pourrait être ce projet?
On va le demander à Alejandro Valente du service des sports de RFI. Bonjour.
Bonjour François, bonjour Armand.
Alors on sait qu'il y a des bisbilles parmi les dirigeants du football ivoirien, que le président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo, est contesté. Alors quel est ce problème de football ivoirien et est-ce que Didier Drogba pourrait être l'homme providentiel?
En tout cas, Didier Drogba, qui s'est exprimé il y a une semaine sur les antennes de Radio Foot International, a évoqué son envie de venir quand même au chevet de ce football ivoirien, constatant qu'effectivement les choses ne se passent pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Il rappelle l'époque où la génération précédente avait réussi à disputer 3 Coupes du Monde consécutives, à gagner la CAN en 2015. Et les dernières performances ivoiriennes sont moins performantes, si on peut le dire comme ça. Lui, il parle d'une renaissance qui passe par la formation des jeunes, qui passe aussi par la réconciliation. Donc il dit effectivement il y a une division, donc il prend pas parti pour Sidi Diallo ou pour ses opposants, mais plutôt l'idée c'est de profiter de son expérience et de son aura pour réconcilier le football ivoirien et partir sur des bases plus saines, en citant comme exemple tout ce qu'il a appris en Europe, en Amérique, au cours de ses voyages. Il a appris beaucoup de choses, il espère pouvoir faire en profiter les footballs ivoiriens.
Voilà, Didier Drogba, au-dessus des divisions internes au football ivoirien. Une autre question, Armand, pour Alejandro.
Oui, effectivement, en décembre dernier, il a été nommé vice-président des commissions des acteurs du football de la FIFA. Est-ce compatible avec une candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football?
Alors, rapidement, déjà, il n'en fait pas partie, finalement, de cette commission qui a été créée il y a 3 ans par Gianni Infantino. Il avait été question qu'il l'intègre, mais finalement, il n'en fait pas partie. L'Afrique est représentée par Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise, et par le Nigérien Cheu Diko. Donc, Didier Drogba n'y est pas. Donc, évidemment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, il a été nommé récemment conseiller du président Hamad au sein de la CAF, afin de l'épauler avec Samuel Eto'o également. Et là, visiblement, il n'y a pas d'incompatibilité avec ça.
Eh bien, on suivra ça dans les prochains mois. Merci Alejandro.